Ça y est, enfin en direct sur le plateau de Radio Campus Paris pour cette bonsoir docteur Marion, comment allez-vous?
Ça va
notre docteur tête de bois. J'ai l'impression que vous avez envie de contrôler tout le monde aujourd'hui.
Non, pas du tout, juste vous le docteur Loïc.
Ah ben, ça va bien se passer cette émission.
Heureusement
que j'ai le soutien de docteur Léo. Bonsoir.
Exactement, ouais, bonsoir à tous.
Cette voix profonde et caverneuse de la médecine, comment allez-vous?
Ça va plutôt bien.
Et vous docteur Marion, comment allez-vous?
Bah ça va plus que bien même.
Ça me fait peur que vous allez plus que bien.
C'est ça.
Justement. Alors, pour pas avoir peur, on se fait un petit tour de l'actu santé.
Une petite info transcendante pour bien commencer la semaine.
Et effectivement, il y aura bientôt du verre bioactif dans les plombages dentaires. Vous allez pouvoir avoir des dents bioniques, docteur Marion. Ça, c'est une bonne nouvelle.
J'ai aucun problème dentaire, moi, par contre.
En tout cas, c'est ce que proposent les ingénieurs de l'Oregon State University aux États-Unis, qui ont ainsi montré une diminution de la pénétration bactérienne de 61% sur les amalgames composés en partie de verre bioactif. Il explique notamment par la présence dans le verre d'ions de calcium et de phosphate aux effets nocifs pour les microbes. Si la composition des plombages évolue pour contenir 15% de verre bioactif, notre vie et donc celle de nos dents pourrait bientôt s'en trouver changée. Utile pour soigner les caries, il pourrait alors prolonger la durée de vie des amalgames dentaires et prévenir l'arrivée de nouvelles caries en luttant contre les bactéries qui en sont responsables. Bon, reste quand même que le travail des ingénieurs devra être confirmé par des essais cliniques avant qu'une utilisation du verre bioactif dans les amalgames et les plombages ne soit autorisée.
Très bien, docteur Loïc. Et alors, cette semaine, le prix Nobel de la médecine frauduleuse est décerné à
Marie-Christine O. Et on peut pas dire docteur Marie-Christine O. Marie-Christiane, pardon, excusez-moi.
On n'écorche pas le nom d'un prix Nobel
alors,
de la médecine frauduleuse.
Et je mets des guillemets, pharmacienne du 10e arrondissement qui exerçait, eh bien, sans diplôme.
Eh oui, sympa eh ben quand
voilà.
même.
Alors, comme quoi une malversation peut en cacher une autre, c'est le Parisien qui le révèle ce mardi. Marie-Christiane O, qui officiait depuis 2012 dans la pharmacie de Lorient, on cite même l'adresse, dans le 10e arrondissement, avait de la ressource en la matière de filouterie. Alors effectivement, la Marie-Christiane n'hésitait pas pour faire gonfler la note à ajouter par exemple d'un petit coup de stylo le nom d'un médicament sur l'ordonnance d'un médecin qui ne l'avait pas prescrit. La gérante utilisait également des ordonnances authentiques pour fabriquer des faux. Bon, au total, une dizaine de médecins généralistes et spécialistes ont été victimes de ces pratiques et le préjudice total pour la sécu atteint le chiffre record de 1,4 millions d'euros.
C'est quand même énorme.
Pour une pharmacie. Donc, condamné pour ces faits le 10 décembre par le tribunal correctionnel, l'affaire ne s'arrête pourtant pas là. Alerté par les soupçons qui planent sur la pharmacie et sa gérante, l'autorité régionale de santé, l'ARS, l'agence régionale de santé, a décidé de mener sa propre enquête et découvre que Marie-Christiane O n'a jamais été docteur en pharmacie. Moi, je suis fan. Son diplôme était lui aussi un faux particulièrement habile, car en tout point similaire à un diplôme authentique, détaille au Parisien un proche du dossier. Devant la gravité des faits et les risques sanitaires encourus par les clients de l'officine, un juge d'instruction a été désigné. La fausseur présumée a été mise en examen, notamment pour usurpation de titre faux et usage de faux. La semaine dernière, Marie-Christiane O, ne s'étant pas constituée prisonnière, les forces de l'ordre sont toujours à sa recherche en vue de la carcérer. Moi, je suis complètement fan de Marie-Christiane O.
Elle est géniale.
Et on continue avec les bonnes nouvelles, Marion.
Tout à fait, une très bonne nouvelle. Cette fois-ci, on part en Afrique, car pour terminer cette semaine, l'OMS déclare la fin de l'épidémie Ebola en Guinée.
C'est officiel, la Guinée est exempte de la transmission du virus Ebola, a annoncé la semaine dernière l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. 2 ans après l'arrivée du virus dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, une période de 42 jours, soit 2 fois la période d'incubation, s'est écoulée depuis que la dernière personne infectée a été testée négativement pour la seconde fois. La Guinée entre maintenant dans une période de surveillance renforcée de 90 jours afin de pouvoir identifier rapidement tout cas nouveau et empêcher ainsi la propagation du virus, indique l'OMS qui félicite le gouvernement de la Guinée et son peuple pour être parvenu à arrêter l'épidémie de maladie à virus Ebola. L'épidémie Ebola avait débuté en Guinée en 2013. En Afrique de l'Ouest, elle avait fait plus de 11 300 morts sur 29 000 cas recensés, concentrés à 99% dans 3 pays limitrophes, la Guinée, la Sierra Leone, déclarée exempte le 7 novembre 2015, et le Libéria, où la fin de l'épidémie avait été annoncée 2 fois, en mai et puis en septembre, avant de nouvelles résurgences. En tout cas, une bonne nouvelle pour clôturer nos actus santé. Et La bonne santé, c'est qu'on entend votre voix. On a presque envie de vous appeler chérie, docteur Léo.
À ce point-là.
Ouais, non.
On
n'exagère rien. J'aurais préféré vous appeler chérie, docteur Marion. Mais bon, voilà, c'est le jeu des chroniques, c'est comme ça.
Restons docteur.
Alors restons professionnels et parlons des machines à café et de leurs bactéries.
Exactement, une petite astuce aujourd'hui en lien avec la machine à café, celle de la maison, de la fac, du bureau, du self qui délivre son café bien acide à toute heure de la journée. Alors ici, pas de conseils pour sortir vos meilleures blagues à tous vos collègues autour d'un bon expresso à base de café instantané, mais une petite astuce santé issue d'une étude récente de chercheurs de l'université de Valence en Espagne. Alors ces chercheurs ont, pendant un an, observé quelques dizaines de machines à café dans un cadre domestique ou public. Ils n'ont pas pris n'importe quelle machine, mais sont concentrés sur celle à base de capsules. Vous savez, celles aux petites couleurs multicolores, mais toutes du même goût, celles vendues par un quarantenaire aux cheveux un peu poivre et sel.
Tout noir, un café nommé Désir.
Et oui, un café nommé Désir, mais pas tellement justement, parce que cette étude a constaté un taux de bactéries pathogènes, celles qui provoquent des maladies anormalement élevées dans ces machines. Alors c'est d'autant plus surprenant que le café est plutôt connu pour ses propriétés antibactériennes. Hein. Tout de suite, ça donne un peu moins envie de boire un café avec ce cher Georges. C'est difficile à dire.
C'est cher Georges, oui, effectivement. George. Et donc, du coup, vous avez conclu, docteur Léo.
Eh bien, alors pour l'instant,
pas grand chose.
Juste que le café reste un produit qui peut s'avérer bon pour la santé s'il est consommé, en tout cas, dans des doses relativement modérées. Alors, modéré, ça ne veut pas dire comme Balzac, qui, paraît-il, en buvait 50 tasses par jour. Hein. Il n'était pas tellement adepte de la demi-mesure et ça finit par lui jouer un mauvais tour puisqu'il est mort à 51 ans d'une crise cardiaque. Bon alors sinon le café il est vanté souvent pour ses effets stimulants, mais il y a d'innombrables autres avantages que le docteur Loïc vous étayera vraisemblablement la semaine prochaine.
Et donc, eh bien c'était la semaine dernière, la semaine prochaine. On en parle la semaine prochaine.
Suivez ah oui, un peu docteur Loïc.
Complètement les chiens.
On fait tellement d'émissions.
Il y a des chiens partout là du coup.
Donc voilà, donc ici ce qui est incriminé, c'est pas le café mais plutôt le fonctionnement de la machine qui est un incubateur et un réservoir de bactéries. Du coup on va pas se mentir, ce café qui est déjà à ses limites niveau goût, il devient franchement répugnant. Le problème qui se pose, c'est même pas une question de propreté ou d'usage intensif ou pas de la machine, mais il vient bien, selon cette étude, des propriétés intrinsèques de la machine à café. C'est au niveau du compartiment qui récupère les capsules usagées que se développent en masse ces bactéries, dont l'étude en a recensé quand même jusqu'à 67 différentes. Les bactéries qui prolifèrent et colonisent ensuite l'ensemble de l'intérieur de la machine.
Mais alors que faire, docteur Léo ?
Eh bien, vous pouvez déjà, pour commencer, peut-être vous séparer de votre produit marketing au prix prohibitif. Mais sinon, on vous conseille surtout de vider très régulièrement votre bac à capsules usagées et de vraiment bien le nettoyer, tout comme la grille d'égouttage. Alors, c'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça. Voilà, allez, bon café.
Et bon café, un petit café. Merci,
docteur.
Un petit café.
Georges,
vous pouvez m'offrir un petit café. Allez, eh bien, on boit pas de café, par contre, on écoute les infos qu'il faut. Quoi de neuf, docteur Marion ? Alors, la journée mondiale sans pantalon.
Oui, tout à fait. Enfin, cette semaine, il n'y a pas grand-chose. En réalité, c'est bien la rentrée et effectivement, tout le monde dort encore un peu. La seule journée mondiale que nous avons, c'est la journée mondiale sans pantalon qui aura lieu mercredi 13 janvier. Alors, cette journée mondiale, on est d'accord là-dessus, hein, c'est une journée qui ne brille pas par son intérêt. Hein,
bah, et... Surtout en janvier. Tiens, je mets un short en janvier. Tu fais, c'est génial.
Voilà, donc on peut oser le mot, c'est vraiment carrément idiot. Hein. Voilà, mais on en parle quand même pourquoi ? Pour ceux qui n'étaient pas là ou ceux qui auraient oublié pendant cette période de fête ce que le docteur Guillaume nous avait rappelé il y a quelques semaines, c'est-à-dire qu'il est important pour les hommes de dormir nu. Dormir nu pour améliorer la qualité des spermatozoïdes. Donc ça va un peu avec, je fais un peu le lien, voilà, sans pantalon, sans culotte, c'est le mercredi 13 janvier.
Mais alors, dans votre lit quand même. Hein.
Oui, alors oui, par contre, effectivement, il faudra passer faire un petit bonjour.
Attention aux exhibitionnistes, voilà. C'est, on est bien d'accord, on dort nu chez soi.
Tout à fait, bon, tout à fait.
Voilà.
Après, la journée mondiale sans pantalon, donc elle existe depuis 2013.
Ah, vous avez quand même fait des recherches
mais
en fait sur cette journée qui est complètement idiote.
Complètement idiote, mais qui existe quand même, donc on en parle un peu. Donc elle a eu lieu en 2013, c'était par exemple dans 59 villes et 27 pays, ce qui est quand même pas mal. Et c'était la 11e édition de cet événement qui avait été initié au départ par le groupe new-yorkais qui s'appelle Improve Everywhere.
J'adore
Everywhere.
Quand vous prenez votre inspiration qui s'appelle, je vais le faire, c'est de l'anglais.
C'est ça, qui est un collectif en fait qui s'est fait remarquer par l'organisation de flash mobs humoristiques. Voilà.
Bon, c'est de l'humour, quoi.
C'est de l'humour, c'est de l'humour. On adore l'humour, on rit, donc on parle de la journée sans pantalon.
Journée mondiale sans pantalon. Merci beaucoup, Docteur Marion. Et on écoute eh bien, notre première plage de musique, Quentin, à la réalisation de cette émission extraordinaire. Je dis la réalisation qui est extraordinaire, Quentin, vous le savez.
Eh oui, Loïc, merci. S'il te plaît, de faire des éloges comme ça, là.
Toujours, toujours. Mais voilà, c'est pour dire qu'à la réalisation, on a aussi des experts.
Eh oui, en effet, en effet. Donc, eh oui, Loïc, aujourd'hui, on a décidé de vous faire écouter, découvrir ou même redécouvrir cette jeune artiste, Maya Vidal, qui a sévi en 2011 avec son album God is my bike, littéralement Dieu est ma bicyclette. Preuve, s'il en fallait une, de la légèreté, de la douceur de cette jeune fille qui prône la paix et l'amour dans le monde. Dans son morceau Alphabet of My Phobias, Maya nous fait l'énumération complète des mots qu'elle ne peut pas effacer, mais qu'elle aura à combattre dans sa vie. Des bombes nucléaires au réchauffement planétaire, Maya nous chante ici dans un crescendo merveilleux l'envie d'un monde meilleur. Et quoi de mieux pour commencer cette année 2016?
En tout cas, c'est joyeux, hein, c'est joyeux. Donc,
tu vas voir,
c'est joyeux, Quentin, c'est joyeux. Mais Vidal, nous on apprécie beaucoup parce que c'est le dictionnaire des médecins.
Exactement,
surtout.
C'est ce que j'allais vous dire. Et donc, quoi de mieux pour commencer cette année 2016? Eh bien, Maya Vidal, Alphabet of My Phobias, c'est tout de suite sur Radio Campus Paris.
I want to write a song about the words I live without, the words I cannot say in hopes they go away. I want to write a song about the words that I cut out, my verbal repertoire. I've waited. Abortion, animal cruelty, and B is for the bees. C is climate change, D is doomsday, E is earthquake. F, my fear of flying, G is global warming, and H was Haiti. Ice caps melt on Judgment Day. These are the I don't want to risk seeing this transpire. Safe under the ground, I won't have to view this world as it expires. Y and Z, these are the words I could not erase. These are the things I will have to face. 'Cause I live in
et c'était Maya Vidal sur Radio Campus Paris. On retrouve tout de suite, eh bien, petite piqûre de rappel dans l'émission, petite consultation entre amis.
Maintenant, la suite de nos informations.
Tout aujourd'hui, jeunesse de France.
Mes chers compatriotes,
nous avons fait une perfusion continue des artères coronaires.
Et on écoute Jeunesse de France, une voix qui n'a rien à envier à celle de Malraux, c'est celle profonde et caverneuse de notre docteur Léo. Et cette semaine, vous nous parlez de l'affaire du Mediator, un médicament qui avait été retiré du marché le 25 novembre 2009, si je ne m'abuse.
Exactement, le 25 novembre 2009, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou pour ceux qui sont férus d'acronyme l'AFSAPS, d'ailleurs réformée suite au scandale sur lequel on va s'attarder, donc elle est devenue l'ANSM, pour Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, et bien cette agence, elle prohibe du marché français le Mediator. Alors le Mediator, c'est un produit de santé, alors, santé entre guillemets bien évidemment, c'est plutôt en fait un coupe-faim qui était indiqué en complément de régime et chez les diabétiques en surpoids. Alors il est commercialisé entre 1976 et 2009 par les laboratoires Servier. En 35 ans, il s'est ainsi écoulé près de 145 millions de boîtes consommées par environ 5 millions de personnes. C'est plutôt un beau succès commercial. En revanche, son succès médical malheureusement n'est pas aussi flamboyant. En novembre 2010, notre très cher AFSAPS divulgue des chiffres corrosif autant pour elle, elle est quand même chargée de surveiller les risques liés aux médicaments, que pour le laboratoire Servier. Le Mediator serait responsable de la mort de 500 personnes. Enfin ça c'est pas vraiment ce que pense Jacques Servier, directeur des laboratoires qui portent son nom, qui déclare en janvier 2011 à l'occasion des vœux qu'il présente à ses salariés que le Mediator n'est responsable que de la mort de 3 personnes. Alors on fait face à n'en pas douter à un habile communicant, un grand médecin qui s'est fait décorer de l'ordre national du mérite par François Mitterrand et qui a même reçu des mains de Nicolas Sarkozy la grande croix de la Légion d'honneur, soit le plus haut grade de cette distinction. Félicitations hein.
Félicitations, et je crois même qu'il y avait une promotion qui s'appelait la promotion Servier qui a été débaptisée après, on dit ouh c'est
Peut-être qu'on va revenir sur ce qu'on avait.
On va revenir un peu en arrière.
Voilà, donc le Mediator est disparu de la circulation à la fin 2009. Or, et de façon assez intéressante et aussi choquante, l'alerte sur la dangerosité du produit, notamment via son principal composant, qui est le benfluorex, est assez ancienne et en fait elle date de la fin des années 90. En 97, l'isomérite, qui est un produit extrêmement proche dans sa composition du Mediator, est par exemple retiré du marché des États-Unis à la demande des autorités sanitaires de ce pays, car suspecté d'entraîner des dysfonctionnements des valves cardiaques. En 99, le docteur Georges Chiche signale au centre de pharmacovigilance, les liens plausibles entre le Mediator et ses mêmes dysfonctionnements cardiaques. En 2005, le Mediator est retiré des marchés italiens et espagnols. Ça fait quand même beaucoup d'alertes, mais n'est pas Sherlock Holmes qui veut. Et oui, car il faut attendre novembre 2009 pour que le médicament soit retiré en France. Et il faut attendre le combat mené par Irène Frachon, qu'on salue.
Exactement, une pneumologue du CHU de Brest, qui a été extraordinaire dans ce dossier. Il faut vraiment la saluer, qui était vraiment seule contre toutes.
Seule contre tous. D'ailleurs,
n'est-ce pas?
Donc c'est elle qui constate et démontre les liens entre la prise du Mediator et un dysfonctionnement des valves cardiaques, que j'ai déjà cité, appelé donc valvulopathie. Donc c'est un médecin du CHU de Brest, qui n'est même pas cardiologue d'ailleurs, qui quasiment seul, donc comme on l'a dit, qui révèle un scandale sanitaire énorme, soulignant un lien entre le Mediator et ce dysfonctionnement cardiaque que des laboratoires privés et l'Agence française de surveillance des médicaments n'ont pas reçu à déceler. C'est un peu étrange quand même, on imagine bien qu'il n'y a pas eu ni pression ni magouille dans cette histoire.
Exactement, alors Irène Frachon avait justement publié un livre aux éditions Dialogue, si je ne m'abuse, l'éditeur avait été, je crois de mémoire, condamné parce que le titre n'était pas Mediator, combien de morts, avait pas été accepté, mais voilà, lisez le livre d'Irène Frachon publié aux éditions Dialogue qui raconte effectivement son combat auprès de, à l'époque, l'AFSAPS et qui est devenu l'ANSM.
Voilà, parce que y a derrière ce combat médical, il y a aussi une grande aventure judiciaire, mais justement, Jacques Servier, lui, il a échappé à la justice en lui préférant la mort le 16 avril 2014. Dommage. Eh oui, je sais. Et oui, parce que si Jacques Servier et l'AFSAPS n'ont pas survécu au scandale, le combat continue. Les laboratoires Servier, eux, sont toujours bien vivants et les patients qui ont refusé la conciliation de Servier poursuivent leur action en justice, au civil, comme au pénal.
Merci pour cette petite piqûre de rappel. On le rappelle, le livre d'Irène Frachon, Mediator, combien de morts aux éditions Dialogue. Un peu de promotion, ça fait toujours du bien. Et on va passer tout de suite à notre mot du médecin.
Docteur, paraît que vous êtes docteur, parce que malade, paraît que je suis malade.
Alors le mot de la semaine est l'héméralopie.
Tout à fait, docteur Loïc. Donc effectivement, héméralopie, alors pour faire un petit peu d'étymologie, le mot est formé à partir d'héméro qui vient du grec ancien héméra, qui veut dire le jour, et opi, aussi du grec ancien, qui veut dire œil.
Œil.
Voilà.
Et donc du coup, on se le demande toujours.
Et donc effectivement, la définition, donc c'est un terme médical qui permet de définir la baisse de l'acuité visuelle quand la luminosité est faible. Voilà. Donc effectivement, ça veut dire très concrètement que c'est une difficulté excessive à voir lorsque la luminosité diminue, c'est-à-dire à partir du crépuscule, donc que ce soit la luminosité naturelle ou effectivement artificielle, lumière naturelle ou artificielle.
Exactement, bah du coup vous allez dans une grotte, j'ai l'impression que vous...
Exactement,
vous allez dans une grotte, je vois rien dans une grotte.
Voilà, exactement, vous rentrez dans la grotte et plus vous rentrez dans la grotte, moins vous voyez, voilà.
Très bel exemple. Très parlant.
Comme il y a des causes, il y a deux causes sur l'héméralopie.
Exactement, donc c'est souvent causé par un pourpre rétinien, j'ai réussi à le dire, insuffisant. De sources génétiques ou à cause effectivement d'une carence alimentaire en vitamine A. Donc effectivement, on pense pas que ça peut aller jusque là, mais cette carence peut créer l'héméralopie. Donc c'est effectivement l'une des maladies visuelles rares qui... Je ne suis pas du tout.
Je sens en plus que c'est
tout.
Une info de folie.
Mais c'est
alors ça nous empêche,
suspense,
voilà. En tout cas, ça vous empêche de passer le permis
cas,
de conduire,
voilà,
c'est ça.
Voilà, c'est effectivement l'information, c'est que c'est une maladie en France qui est considérée comme empêchante en fait de passer son permis de conduire et donc de pouvoir conduire.
Ça valait le coup d'attendre la fin de votre chronique, docteur Marion.
Voilà,
en tout cas, pour
la
cette info.
Chute.
Merci. Restez sur votre chaise, quand même, docteur Marion. Allez, on enchaîne avec le pire du forum.
Je fais pipi, c'est plus jaune que d'habitude.
Alors comme toutes les semaines, on est allé fouiner sur les forums internet et on a trouvé la perle de la semaine. Alors la perle de la semaine, ça fait waouh, c'est XX-Céline. Voilà, Poupou Pidou nous dit d'octinote d'argent. Ça va être compliqué, je vous la lis.
À l'aide, je vous explique la situation. Il fait très chaud, nous sommes en vacances. Il y a environ une heure, nous étions dans la piscine. Très excités tous les deux, on a décidé de faire l'amour dans l'eau. Seulement voilà.
Avec l'eau et l'air dans mon vagin, un effet ventouse s'est produit et nous voilà bloqués. S'il vous plaît, ne rigolez pas, je suis assis sur lui, la chaise tournée à l'ordinateur, il a la tête dans ma poitrine, je traduis à peu près. On a beaucoup de mal à se déplacer, il en a marre de me porter pour faire trois pas. De plus, je commence à envie d'avoir eu d'uriner et lui encore plus, il a commencé à uriner dans mon vagin, c'est terrible. Le savon ne marche pas, on a tout essayé, que faire? J'ai 17 ans, lui aussi, pas question de le dire à papa et maman, de toute façon, ils vont voir ce soir en rentrant du boulot. Ah là 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 là, ma chère Céline, il est effectivement probable que vous soyez victime, comme vous l'appelez si bien, d'un effet ventouse. Alors pas de panique, même si la situation peut être paniquante, il y a une solution assez simple qui est très efficace. Alors on apprend ça en première année de médecine lorsqu'on étudie l'anatomie du corps humain et ses petites subtilités. La libération du pénis de votre partenaire peut être obtenue facilement grâce à la pratique d'un toucher rectal sur la femme. Il suffit donc d'engager, allez je vous fais la technique, deux doigts, restez à l'écoute. Deux doigts dans votre rectum pour décontracter vos muscles vaginaux et hop, adieu, l'effet ventouse. Bon, sachez que la littérature médicale désigne sous le nom de pénis captivus l'impossibilité pour l'homme de retirer son sexe du vagin de sa partenaire durant un rapport. Le pénis est alors retenu soit par un effet ventouse, soit par une puissante contraction des muscles du vagin de la femme, une sorte de vaginisme empêchant tout retrait et maintenant l'érection. Alors si cet incident est fréquent chez le chien à cause de la turgescence de sa verge en bougeant le champagne, nous dit la littérature, j'adore, mais moi je me dis j'aurais dû faire vétérinaire. Et donc il reste anecdotique chez l'homme, un seul cas de penis captivus a été reporté ce jour dans une lettre au British Medical Journal datée de 1980 évoquant un cas non publié de 1947. Bon, on le disait en tout cas, la libération du pénis peut être obtenue grâce à la pratique du toucher rectal sur la femme ou par l'injection aussi d'un myorelaxant. Alors on retrouve dans plein de films cette scène. On retrouve ça dans le film Les Infidèles en 2012, voilà un film au combien drôle.
Quelle culture cinématographique.
Exactement. Alors, et on va partir, on continue sur internet et on va partir pour nos brèves de salles d'attente. On part, où est-ce que vous voulez qu'on parte? On part à Toulouse.
Ah, ça vous plaît,
Toulouse? Toulouse. Toulouse, janvier 2015, ils ont remarqué quelque chose. C'est assez intéressant d'ailleurs.
Ils ont remarqué quelque chose.
Ouais, ils ont remarqué quelque chose à Toulouse. Ce sont des médecins d'une clinique à Toulouse
qui ont remarqué.
Alors, ils ont remarqué, allez, je vous aide un peu. Ils ont augmenté que quelque chose augmenter.
La taille du pénis.
Eh ben pas du tout, oh, non, pas du tout. Ça, absolument génial. Pas. Janvier 2015, qu'est-ce qui se passe en janvier 2015?
La grippe. Non,
non, chose un peu plus effroyable. Nous sommes Charlie, les attentats. Ah, les attentats, et du coup, ils ont marqué, ils ont fait un lien entre les attentats, le stress, et.
Ouais, ils sont forts.
Et. Eh ben non, c'est pas le stress du coup a provoqué en fait des pathologies.
Du cœur. Ah,
exactement.
Du cœur. Des pathologies cardiaques.
Non, et par contre, les chiffres sont assez incroyables. Ils ont manqué, ils ont remarqué une augmentation de 75%. Et bien de plus par rapport à des hospitalisations en faveur des pathologies cardiaques
à
par
Toulouse.
Rapport à 2014, exactement plus de 180% d'infarctus du myocarde.
D'accord.
Quand même, c'est quand même incroyable. Et ils disent bah c'est sans doute lié effectivement au stress. Les gens étaient plus stressés et donc bah ils avaient plus de risques de faire des infarctus du myocarde. Allez, une petite étude. On parle, je crois que c'est au, je sais pas si on parle en Angleterre. Que dévoile votre façon de dérouler le papier de toilette? Alors ça c'est une étude complètement stupide, je pense.
Parce qu'en c'est fait, pas le British Medical Journal qui a publié ça.
C'est le docteur anglais Gildo Crawley qui nous dit, effectivement une spécialiste des relations humaines, et qui nous dit, eh ben en fait si vous déroulez la façon dont vous déroulez le papier toilette a une incidence sur votre comportement.
Ah, alors si il y a deux
relations sociales.
Voilà,
non, alors pas du tout. En fait c'est la façon
autres,
dont on positionne le papier toilette sur le support. Vous savez on peut mettre les feuilles. Eh ben oui, du coup,
okay.
Vers vous ou vers l'intérieur,
d'accord,
vous voyez.
D'accord, ok.
Alors, c'est bon, je pense que c'est complètement n'importe quoi. Vous déroulez votre papier par le dessus, donc vers vous.
Oui.
Vous aimez prendre les choses en main, vous êtes organisé et plutôt actif.
C'est effectivement vous, n'importe quoi. C'est
exactement. Vous, vous déroulez comment le papier toilette, docteur Mario?
Mais alors, en fait, moi, j'ai pas de support, donc.
Alors, vous êtes dans la troisième catégorie. Vous déroulez votre papier par le dessous, donc vers le mur. Vous êtes plutôt dépendant des autres, fiable, et vous recherchez des relations humaines avec des fondations. Je sais pas du tout comment elle a fait cette étude. Et par contre, ça n'a pas d'importance pour vous. Tant qu'il y en a, vous êtes flexible. Avec tendance à minimiser les conflits et redouter la nouveauté. Moi j'ai l'impression que c'est pas du tout vous, docteur Mario.
Mais bien sûr.
Allez, on a le temps pour une dernière.
Allez.
Une dernière, vous voulez partir. Allez, bah tiens, ça c'est pas mal. Pour les maux de dos, ça c'est un peu pour vous du coup. Réparation des disques intervertébraux.
Ah, ouais.
Des disques intervertébraux. Et donc c'est une découverte des scientifiques nantais de l'Institut National de Santé et de la Recherche Médicale,
c'est un
autrement
sport
dit de l'INSERM. Pas du tout.
Qui permet de...
Pas du tout, ils arrivent à réparer en fait les disques vertébraux grâce à quoi?
Ah, l'injection d'un.
Ouais, tout à fait. Ouais. Alors qu'est-ce qu'ils peuvent injecter?
Du gel douche.
Du gel pour la peau.
Mais non.
Non, alors, non, c'est des matières humaines.
Hein. Ah!
Ouais.
Et ben de la graisse.
Exactement, c'est de la graisse de patients volontaires. Ils sont allés chercher des cellules souches connues exactement pour leur capacité à se transformer dans d'autres types de cellules. Et du coup, voilà, ça favorise en tout cas la réparation des disques intervertébraux. Et ça a été en tout cas pour l'instant transporté avec succès sur des souris. Les premiers tests pour les hommes devraient bientôt venir. Plutôt une bonne nouvelle.
C'est
plutôt bien. Merci les Nantais. Merci. Exactement. Merci l'INSERM. Allez, c'est tout de suite la fin petite consultation entre amis. On se retrouve la semaine prochaine 17h30, 18h à la technique, la réalisation. Il y avait notre Auvergnat préféré Quentin. Juste après nous, vous retrouvez l'œil à l'écoute à 19h Tropical Club. Plus d'infos sur www.radiocampusparis.org. Vous pouvez retrouver également notre page Facebook.
Exactement, notre page qui vient d'atteindre les 100 fans enfin.
Et on l'avait dit, on l'avait promis.
Mais on l'avait
merci
promis, donc c'est Mickaël. Oui, merci à tous.
Merci
déjà
à tous. Merci et à on tous paye un coup.
On paye un coup à Mickaël qui est donc notre 100e fan. On l'invite.
Exactement. N'hésitez pas à aller sur notre site internet, podcaster les émissions. N'hésitez pas à nous écrire également. Petite consultation entre amis. On vous dit à la semaine prochaine. On vous embrasse.
Oui, à la semaine prochaine.
Ciao, ciao. Salut.
Salut.